Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Le carême est commencé et le carême, ça rime avec entraide et fraternité. Alors cette année, la campagne parle à nouveau d'agriculture en insistant sur l'agro-business. Alors on va voir un petit peu ce que c'est en compagnie de notre invité, François Le Tocard, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes membre du service communication entraide et fraternité notamment, parce que vous avez plusieurs casquettes.
C'est ça.
Alors voilà, donc la phrase qu'on va voir s'afficher, qu'on voit s'afficher dans toutes les églises pour le moment, c'est soutenir les paysans, c'est lutter efficacement contre la faim. Alors la faim, on en parle un peu moins, vu que la crise est chez nous aussi, mais il est bon de rappeler qu'il y a 1 milliard de personnes qui ont faim encore sur la planète. 1 milliard de personnes, ça veut dire qui ont faim, ça veut dire qu'elles n'ont que 1 ou 2 repas par jour, avec souvent un travail physique fatigant dans les champs. Que les enfants, eh bien, ils ont des carences alimentaires, qu'ils meurent précocement, que leur développement physique et intellectuel est entravé. Alors voilà, on va un petit peu voir ce que propose Entraide et Fraternité face à ce fléau. Alors bon, on l'a dit, 1 milliard de personnes, François, mais qui sont ces personnes majoritairement ?
Alors c'est ça qui est tout à fait paradoxal, mais c'est que 75% des personnes qui ont faim aujourd'hui sont des petits paysans, donc des personnes qui cultivent la terre, qui théoriquement devraient pouvoir nourrir leur famille, mais qui n'y arrivent pas. Alors d'abord, je voudrais peut-être revenir sur ce chiffre de la faim. On parle 1 milliard de personnes affamées. Il faut savoir que c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Il faut savoir aussi que derrière ces chiffres, il y a vraiment le problème de la faim dans ce qu'il implique au niveau quotidien pour ces personnes. Donc c'est évidemment un manque d'énergie, c'est toute la survie qui est le but même de chaque journée. Donc les gens sont épuisés, c'est une fatigue psychologique aussi. Il faut savoir que la faim et la malnutrition représentent 58% de la mortalité dans le monde. Donc la faim tue plus que le sida, la tuberculose et la diphtérie réunies. Donc c'est vraiment un immense problème, et c'est un problème qui ne cesse de croître. Donc je vous disais, les premières personnes touchées par la faim sont des petits paysans. Il faut savoir que c'est les petits paysans qui produisent 75% de la nourriture dans le monde. Le problème, c'est que ces petits paysans, ils ne peuvent pas se contenter de produire pour se nourrir. Il faut également qu'ils puissent vendre des surplus qui vont leur permettre d'acquérir des biens de première nécessité, qui vont leur permettre de diversifier aussi leur alimentation. Or, leurs productions sont mises en concurrence aujourd'hui sur les marchés dans leur pays avec des produits de l'agro-industrie, des produits qui sont importés, qui viennent d'Europe, d'Amérique du Nord, et qui sont bien souvent subventionnés, qui donc sur ces marchés locaux se retrouvent vendus à des prix inférieurs à ceux des productions locales.
Pourtant, l'agro-industrie a la prétention de nourrir le monde en produisant des quantités énormes.
Donc c'est exactement ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous entendez les discours des décideurs économiques et politiques, on vous dit que pour résoudre le problème de la faim, il faut industrialiser l'agriculture, il faut donner quelque part une carte blanche, un blanc-seing plutôt, à toutes ces industries, ces multinationales. Mais je le répète, ces multinationales ne produisent que 25% de la nourriture consommée dans le monde, mais leur objectif à ces multinationales, ce n'est pas de résoudre le problème de la faim, c'est de faire du profit et donc de satisfaire les exigences de leurs actionnaires. Donc on est dans une autre logique, une logique purement financière, une logique même de spéculation. Et donc c'est pour ça qu'on va voir ces industries développer des cultures avec une très faible intensité de main-d'œuvre, des cultures à coups de pesticides, à coups de biotechnologie, d'OGM, etc. Donc le problème, il se situe là, c'est qu'aujourd'hui, on a confié la responsabilité de nourrir l'humanité à des firmes multinationales dont, en fait, ce n'est pas l'objectif.
Mmh. Mais les discours commencent quand même un petit peu à changer au niveau international. Olivier de Schutter, par exemple, qui est le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, le répète à qui veut l'entendre. Et ça passe peut-être un petit peu dans les discours, mais ça ne passe pas encore dans les pratiques vis-à-vis des multinationales.
Non, mais en fait, il faut vraiment prendre conscience que la petite agriculture paysanne, elle est plus productive. C'est assez interpellant. Si on prend le rendement à l'hectare, les petits agriculteurs produisent plus par hectare.
C'est étonnant, en effet.
C'est tout à fait étonnant, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. L'intensité en main-d'œuvre est très importante. Et donc, sur le plan purement financier, c'est pas une agriculture rentable. Mais elle l'est évidemment sur le plan social, elle l'est sur le le plan environnemental et elle l'est, je le répète encore une fois, sur le plan de la sécurité alimentaire, puisque ce sont ces gens-là qui fournissent les trois quarts de la nourriture consommée dans le monde. Mmh. Donc le discours, vous me dites, il commence à passer. Effectivement, on voit poindre une envie de soutenir la petite agriculture paysanne, aussi, je pense, sur son rôle social et environnemental. Mais le rouleau compresseur des multinationales est toujours bien présent. Ce sont ces multinationales qui exercent un lobby au niveau de la Commission européenne, au niveau de l'OMC, au niveau des grandes instances internationales pour faire passer leur desiderata. Donc par exemple, on a vu récemment en Europe les multinationales semencières réussir à faire passer une réglementation qui oblige une inscription des semences dans un catalogue au niveau européen, une inscription qui est très onéreuse, qui coûte très cher. Et donc ces multinationales semencières qui détiennent 85% des semences brevetées dans le monde se retrouvent finalement avec un monopole de fait sur les semences. Et les petits paysans qui cultivent des semences traditionnelles se retrouvent dans l'incapacité de reproduire leurs semences pour les ressemer l'année suivante, ce qui a été finalement une pratique ancestrale mais qui n'est plus possible aujourd'hui à cause des réglementations.
Quand on vous entend, on se dit qu'évidemment les rapports de force est bien inégal entre les petits paysans sur le terrain et puis ces énormes lobbies. Alors Entraide et Fraternité essaye de se faire un petit peu le porte-voix avec d'autres, bien sûr, de ces petits paysans. Quelle est l'action d'Entraide et Fraternité pour faire entendre cette voix-là?
Alors je dirais que nous avons une action à deux niveaux. D'abord, évidemment, le soutien de projets, d'associations qui viennent en aide à ces petits paysans. Alors là, on peut entrer dans les détails
tout à l'heure. Ouais.
Donc c'est surtout la formation vraiment pour développer l'agroécologie, la petite agriculture. Ça c'est un premier axe de travail et c'est l'axe que nous mettons surtout en valeur durant cette campagne de carême. Mais nous avons également pour ambition de faire un plaidoyer politique pour défendre la position de la petite paysannerie. Alors j'insiste quand même sur le fait que quand on parle de petite paysannerie, ça englobe également les petits paysans au nord de la planète. Donc on a vu récemment en Belgique le problème avec la crise du lait. Les paysans et l'agriculture familiale aujourd'hui en Belgique, elle est également confrontée à cette concurrence de l'agro-industrie. Et donc les paysans, ils veulent tout simplement vivre de leur travail, ils ne veulent pas vivre de subventions. Donc il y a un même combat à mener ici au niveau européen.
Voilà, le Nord-Sud est aussi une des particularités d'Entraide et Fraternité. On y revient après notre première pause musicale, on écoute Tiken Jah Fakoly.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Mandin se trouva chez les Wolof. Une partie de l'Empire aussi.
Voilà, c'était Tikenja Fakoli, l'altermondialisme en chanson. Nous revenons donc à cette campagne de Carême qui traite, nous l'avons dit, de l'agrobusiness, de l'agriculture, face à l'agriculture paysanne. Alors, Entre des Fraternités est aux côtés des petits paysans pour défendre leur façon de cultiver, pour défendre leur survie aussi. À travers le soutien à des projets. Alors, il y a des projets sur les trois continents, mais cette année, c'est l'Afrique des Grands Lacs qui est à l'honneur. Alors, François Letocard, je rappelle, vous êtes membre du service communication d'Entrée des Fraternités. Quels sont les projets, les principaux projets qui sont soutenus dans cette région des Grands Lacs cette année ?
Oui, alors nous avons voulu mettre en avant, comme je le disais, des projets qui viennent en aide à la petite paysannerie, à l'agriculture familiale. Donc il y a l'association Avidec au Burundi, l'OAP, qui est l'organisation d'appui à l'autopromotion, qui est basée à Bujumbura, au Burundi, et puis le comité anti-Bouaki, qui est une association basée à Bukavu, donc dans le sud Kivu.
On va rappeler que ce sont des projets locaux. Hein. Entrée des Fraternités n'a pas de ses propres projets.
Tout à fait.
Il y a des associations qui existent, qui font un travail formidable sur le terrain, et Entrée des Fraternités les accompagne, les soutient grâce à la générosité du public ici en Belgique. Alors revenons un petit peu, donc on a parlé du Burundi et du Congo. Au Burundi, c'est l'OAP, donc l'Organisation pour l'Autopromotion. Que fait cette association ?
Alors il faut savoir qu'au Burundi, donc, c'est un pays où 75% de la population n'a pas accès à la nourriture en quantité suffisante. Donc une population qui a 60% dans l'extrême pauvreté. Et donc l'OAP en fait s'est développée dans les années 80, à l'époque de la guerre civile. Ça a été une des seules, si pas la seule association active dans la région de Bujumbura, donc ce qu'on appelle la province de Bujumbura rurale. Ce sont les montagnes donc, autour de la capitale. Donc une région qui était très touchée par la guerre. Et l'OAP, dans un premier temps, a vraiment fait de l'aide d'urgence, de l'aide alimentaire pour les paysans qui étaient coupés du monde et qui étaient vraiment confrontés à une crise alimentaire gravissime. Et donc, au départ de cette action humanitaire, ils ont construit des projets sur le long terme qui sont, je dirais, qui ont pour fil rouge la défense, la promotion des petits paysans et particulièrement des paysannes, puisqu'en fait, dans cette région, 70% des paysans sont des paysannes, des femmes. Donc, il faut quand même souligner cet aspect très important des choses. Et donc, l'appui de l'OAP il peut prendre différentes formes. Donc, de manière générale, ce sont les gens eux-mêmes, dans les villages, qui créent des petits comités. Voilà, avec la volonté, l'envie de faire bouger les choses, de mettre en œuvre un projet. Puis ces petits comités prennent contact avec l'OAP qui leur envoie alors un formateur, un coordinateur, un facilitateur, peu importe le terme, en tout cas une personne pour aider à mettre le projet en route. Alors au niveau de la paysannerie, ben, ça va par exemple être l'initiation à la réalisation de fossés anti-érosion, donc qui vont permettre de protéger les parcelles contre l'érosion, puisqu'on cultive sur des régions montagneuses.
On est dans les collines.
On est dans les collines, donc forcément l'érosion, c'est un gros problème. On va également apprendre aux paysans à réaliser des engrais de façon écologique, donc des engrais bio, si vous voulez, qui vont avoir un impact sur la production. Donc, puisqu'ici, le problème aussi, il faut le savoir, dans cette région, c'est que les parcelles sont très petites. Il y a clairement un problème de surpopulation. Et donc, les gens doivent vraiment rentabiliser un maximum le petit lopin de terre qu'ils ont à leur disposition pour nourrir la famille. Et donc, l'engrais est vraiment quelque chose de vital. Alors comment est-ce qu'on va réaliser de l'engrais ? Ben, ça pourra le plus souvent être grâce à la possession de bétail, des chèvres ou des vaches, hein, qui vont par exemple être mises à disposition des paysans. Elles vont être prêtées, c'est ce qu'on appelle le crédit bétail. Le temps que ces animaux mettent bas, et ensuite on garde le chevreau ou le veau et on va donner l'animal, prêter l'animal plutôt au voisin et ainsi de suite. Et donc grâce à ce bétail, on va pouvoir avoir du fumier et donc de l'engrais et donc augmenter la production.
Oui, ce sont des choses finalement assez simples mais qui demandent de l'organisation.
Et... Exactement, c'est une question d'organisation qui est à mettre en avant. Maintenant, l'organisation, l'OAP va plus loin que cela. Elle propose des microcrédits pour des véritables initiatives d'économie sociale. Donc, par exemple, j'ai eu l'occasion lorsque j'étais là-bas de voir des groupements féminins qui avaient créé en fait une siroperie parce qu'en fait, le problème c'est que les gens ont à disposition beaucoup de fruits, mais lorsqu'ils mettent ces fruits en vente, ben c'est la saison des fruits, tout le monde fait pareil, et donc les prix sont très bas. Donc il faut trouver des moyens de conserver ces fruits.
Sans congélateur.
Sans congélateur pour les vendre sous d'autres formes, confitures, sirops, à une autre époque de l'année. Mm-hmm. Donc ça augmente très considérablement les revenus de ces femmes, de ces familles, et ça vraiment améliore leurs conditions de vie. Donc voilà des petites initiatives très concrètes de terrain qui sont favorisées par nos associations partenaires dans la région.
Il y a une action au niveau de l'eau aussi avec l'OAP.
Oui, donc l'OAP agit pour le développement de sources, pour l'approvisionnement en eau des villages. Il faut savoir que pour les femmes, de nouveau, c'est une corvée extrêmement éprouvante que d'aller chercher l'eau à des sources ou des fontaines qui sont parfois éloignées d'une dizaine de kilomètres. Donc là, il y a tout un programme qui se fait en collaboration avec les paysans eux-mêmes pour amener l'eau avec des canalisations, créer des fontaines au milieu des villages.
Mmh. Et c'est déjà l'heure de la deuxième pause musicale. On va écouter Trio et Greenwashing.
On veut du green, on veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du c'est de l'essence, les Pinocchio du marketing. On veut du green, 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 washing. On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du green, 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 washing. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, 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 washing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, 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 washing. On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques, des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques, des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert, mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, 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 washing.
Voilà, c'était Trio et Greenwashing. On revient à cette campagne de Carême avec François Le Tocard. Alors la campagne de Carême d'entraide et fraternité, c'est aussi inévitablement la présence de partenaires justement d'Afrique des Grands Lacs cette année en Belgique qui viennent à la rencontre du public pour expliquer leur travail, pour expliquer leurs difficultés mais aussi leurs espoirs et pour expliquer pourquoi ils comptent sur la solidarité des Belges. Alors cette année, on a donc des partenaires qui viennent du Burundi et du Congo. Tout d'abord, Paskazi et Venant, qui viennent du Burundi, François.
Alors oui, Paskazi Kana, elle est responsable de l'OAP, donc l'organisation dont nous parlions tout à l'heure. C'est une sacrée personnalité, Paskazi. Hein. C'est vraiment une femme de poigne, donc qui a mené sa barque contre vents et marées, puisque je vous rappelais que cette association a connu la guerre civile au Burundi. Et donc, voilà, elle dirige cette association et elle viendra témoigner, principalement dans la province du Hainaut.
Alors il y a un autre partenaire qui est venant, qui lui vient d'Avidé. Avidé, c'est une petite association du Burundi également.
Voilà, l'association villageoise pour le développement communautaire, donc dans la province de Mwaro. Donc venant, c'est un homme de terrain, c'est un agriculteur qui va raconter effectivement comment il a pu augmenter sa production et changer sa manière de vivre grâce aux formations et aux conseils de l'association.
Mmh. Et lui, il sera plutôt donc dans la région de Liège.
Il viendra à Liège et dans la région germanophone.
Mmh. Et alors du Congo, nous avons deux témoins aussi. D'abord Patient Bagenda.
Alors Patient, c'est un habitué, on va dire, de la campagne du Carême. Je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà vu, entendu. C'est un sacré personnage aussi. Donc il est secrétaire général du comité anti-Bouaki.
Oui, on n'en a pas parlé, on va en dire deux mots maintenant.
Alors le comité anti-Bouaki, donc le CAB, c'est en fait... Donc d'abord une petite traduction, Bouaki, dans la langue du Kivu, ça signifie la maladie Kwashiorkor, donc une maladie qui touchait surtout les enfants, victimes d'insuffisance, de carence alimentaire. Et donc le comité anti-Bouaki, c'est une énorme association parce qu'elle touche plus de 300 villages et donc près de 400 000 personnes sont concernées par ces actions. Donc ce sont là aussi des formations, ce sont aussi des microcrédits, mais c'est aussi une observation particulièrement critique et pertinente de la vie politique de la région du Kivu. Mmh. Donc Patient est vraiment un analyste très fin de la politique et de la situation au Congo.
On aura l'occasion d'ailleurs de l'entendre dans cette émission. Alors, il viendra, dans quelques jours. Oui.
Voilà, il viendra surtout à Bruxelles et dans le Brabant wallon.
Et ensuite Louis, qui lui est un bénéficiaire du comité anti-Bouaki.
Oui, Louis, c'est aussi un parcours assez extraordinaire, puisqu'à la base, ce monsieur est diplômé en chimie, mais vu l'absence de débouchés, il s'est reconverti dans l'agriculture et il a vraiment créé une micro-entreprise, puisqu'il exploite en fait de la canne à sucre. Il en fait divers produits, dont des engrais.
Voilà, donc autant de témoignages qui paraissent tous intéressants. On invite les auditeurs à être attentifs à ce qui va se passer dans leur région. Alors, pour animer cette campagne, il y a aussi des outils qui sont destinés aux écoles, aux paroisses, aux groupes qui le souhaitent. Alors bon, à part l'affiche évidemment qu'on va voir dans toutes les églises, il y a aussi un DVD.
Oui, donc en fait c'est un DVD qui comprend 4 capsules vidéo. Ce sont 4 interviews donc de spécialistes, on va dire, d'experts de la question de l'agro-business et de la faim dans le monde. Mm-hmm. Il y a d'abord M. Olivier de Scutter, dont on a parlé, qui est le rapporteur spécial des Nations Unies sur la question du droit à l'alimentation. Nous avons interviewé notre responsable du département éducation à Entrée des Fraternités, Mme Désirement. Ensuite, nous avons donné la parole à Laurent Delcourt, qui est un chercheur au Centre Tricontinental, le CETRIC, donc un centre de recherche basé à Louvain-la-Neuve. Mmh. Et donc il y a une analyse là aussi très critique de l'agrobusiness et de son emprise sur le monde agricole. Et puis nous avons été faire un petit tour du côté de la Banque mondiale. Et M. Luc Christiansen, qui est un économiste de la Banque mondiale, nous a donné finalement l'éclairage, la manière dont la Banque mondiale voyait le développement dans les communautés rurales.
Voilà, on va signaler quand même que ces capsules vidéo, comme on les appelle, sont disponibles aussi sur YouTube. Alors au niveau, il nous reste peu de temps, au niveau de tout ce qui est liturgie, célébration, préparation à Pâques, qu'est-ce que vous proposez ?
Eh bien, nous proposons les outils habituels. Il y a d'abord les pistes de célébration, donc pour préparer les homélies du Carême. La tapisserie de Carême qui a été réalisée spécialement pour Entrée des Fraternités cette année par un artiste burundais qui illustre la situation dans son pays. Et puis alors le calendrier de Carême à destination des enfants avec des prières, des jeux, des méditations pour vivre ces 40 jours de Carême en solidarité avec les populations africaines.
Voilà, alors au niveau de l'agenda, on va rappeler que les collectes de Carême auront lieu donc les 9 et 10 mars et les 23 et 24 mars dans toutes les paroisses. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette campagne, ce que nous espérons, on vous donne rendez-vous sur notre site internet www.entraide.be. Nous avons également une toute nouvelle page Facebook que nous vous invitons à rejoindre. Et si vous souhaitez nous téléphoner, c'est le 02 227 66 80. Voilà, un très bon carême à tous et à bientôt sur RTF. Merci François.
Merci.